Dans ce qui reste comme temps, Inch'Allah, je vous donne la parole. Si vous avez des questions à poser, je vous écoute. Ça, c'est abrogé. C'est abrogé. Comme le verset qui dit vous les retenez jusqu'à ce que la mort les atteigne. C'est abrogé. C'est abrogé. Donc, il n'y a pas, on les maintient. Non. Le verset, il est clair. Et le divorce, lorsqu'il a lieu, et qu'il y a, on va dire, la edda est passée, on ne peut pas maintenir une femme comme prisonnière. S'il y a péché avec délit, avec preuve à l'appui et à sanction, que ce soit pour l'homme ou la femme, et s'il n'y a pas, ben soit c'est un divorce, soit c'est l'anathème, l'i'an, mais il n'y a pas lieu de les chasser parce qu'elles ont commis un péché. Il y a des sanctions et des démarches judiciaires concernant ces délits-là. Donc cette dernière partie est abrogée.
Excusez-moi, par quel verset?
Le verset de, qui vient, de, je crois, de sur le Taler aussi, qui parle de ça. Que vous ne pouvez pas la sortir et non pas sortir, sauf si elle s'adonne à un péché. Tout cela a été abrogé au niveau de la relation entre hommes et femmes. Et comme j'ai dit, ici, c'est une remarque que je fais concernant la lecture des versets du Coran. Il est de votre devoir. Et de votre devoir de ne pas lire les versets du Coran sans recourir au livre d'exégèse ou sans lire les livres des sciences du Coran, parce que vous êtes en train de réciter bon nombre de versets du Coran dont la lecture a été maintenue par Allah subhanahu wa ta'ala, mais les sentences et les règles juridiques ont été levées. Parce que l'abrogation, elle est multiple. Il y a une abrogation de la lecture et de la sentence. Il y a des versets du Coran dont on ne trouve plus les traces dans le Coran, ni les sentences. Et vous avez des versets qui ont été levés, leur texte est levé, mais leurs sentences sont restées, leur esprit. Et vous avez d'autres qui ont été substitués par d'autres textes et sentences, et d'autres dont le texte est resté, mais la sentence n'est plus d'actualité ni d'application. Et donc faites attention de ne pas lire le Coran seul, sans recourir à un livre de tafsir, à côté de vous, un livre de Ulum al-Quran pour comprendre son fonctionnement. C'est très important. Autre question, s'il vous plaît. Oui.
Donnez la parole. À partir du moment où on dit je divorce, on a le droit de rester 3 mois avec elle ou avec lui.
3 cycles, pas 3 mois. J'ai dit soit les 3 cycles menstruels, soit les 3 mois lorsqu'il s'agit d'une femme qui est monoposée. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont plus de cycle.
Si quelqu'un dit, en plaisantant, je la divorce, et puis directement il dit, je la reprends.
Mais il faut qu'elle accepte. Mais il lui dit, je reprends, oui, mais le divorce n'est pas annulé, il est comptabilisé.
Donc, c'est bien qu'il a le droit de divorcer encore que...
2 fois.
Voilà.
Mais nous avons cité la dernière fois le hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dans la matière, et qui prouve que le divorce, on ne peut pas y revenir. Il a eu lieu, et il y a beaucoup de gens qui se révoltent contre la loi de Dieu. Oui, on a fait l'erreur et on a divorcé 3 fois pour ce qu'on n'a pas possibilité de revenir. Oui, mais Dieu subhanahu wa ta'ala t'a dit que le verset il est là et tu le lisais. Quoi, tu veux abroger la loi de Dieu? On ne peut pas l'abroger. Tu dis que tu es musulman, tu dois respecter la loi de Dieu. Dieu a dit 2 fois, et après soit on vit ensemble dans le bien, soit on se sépare. Et bien on ne va pas changer la loi de Dieu parce qu'on ne peut la changer puisque la révélation elle a pris fin par la mort de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et donc il n'y a plus d'abrogation. Et tu dis que tu es musulman ou tu es musulman, tu dois assumer le contenu de cette loi. Et puisque tu t'y engages et tu t'y soumets, alors à toi de te fonctionner conformément à cette loi et de t'adapter à la loi et non pas avoir adapté la loi à tes humeurs et à tes manières de fonctionner. Donc je me marie, je suis musulmane, je sais que dans une relation matrimoniale, voilà ce que ma religion me dit, et ben par exemple, comme je vous ai dit combien de fois et j'insiste, et ben je vais vraiment effacer de mon dictionnaire et de ma mémoire le mot divorce, quelle que soit la situation par laquelle je vais passer, sauf si on arrive à des situations, comme on l'a dit, où le divorce devient presque une obligation, alors à ce moment-là, oui. Mais en désaccord pour un voyage, pour l'achat d'une voiture, pour des vêtements, pour l'achat avec la belle-mère et le beau-père, des conneries pareilles, le divorce ne doit pas exister. On ne divorce pas pour des choses pareilles. En islam, on divorce parce que pour de bon, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de possibilité qu'on puisse se supporter et vivre ensemble. Mais pas pour des futilités. Et surtout, lorsqu'on voit, comme j'ai dit, statistiquement, d'une manière concrète, lorsqu'on voit vraiment le nombre de divorces qu'il y a dans la communauté arabo-musulmane actuellement, surtout ceux que nous côtoyons, Allah al-Azim, les trois quarts et plus que les trois quarts, ce sont des causes du domaine du futile. On divorce parce qu'on n'a plus de patience ou parce qu'on rêvait peut-être du cavalier, hein, du chevalier blanc, là, qui va venir sur son cheval blanc, m'emmener. Et où le type, il croit qu'il a épousé Sayyida Aïcha, radiallahu anha, une qui lui est semblable dans sa piété au Rab al-Adawiyah, et puis il se trouve devant une femme skina qui parle de couche et tout. Ouais, mais qui vient vivre un jour en cuisine, il comprendra qu'on n'a pas le temps de faire le siyam ou le qiyam le matin et soir. Comme quelqu'un, il m'a dit, je divorce, je dis pourquoi divorce? Oui, parce que ma femme, elle ne suit pas mon rythme d'évolution dans l'islam. Oui, mais elle, miskine, elle est acculée avec trois gosses. Elle a trois gosses, elle doit s'occuper matin et soir. Oh, monsieur, il est libre, et il dit qu'elle n'évolue pas sur le plan spirituel comme lui. Viens, tiens, les trois gosses, et elle va évoluer, elle, spirituellement. Voilà, donc, et donc on oublie. Et lorsqu'on est une femme, et mariée, et surtout avec le cycle menstruel qui vient, on n'a plus le temps ni de faire des prières surrogatoires, ni de faire des qiyam al-layl, même on n'a même pas le temps de lire le Coran parfois, ni même d'approfondir ses connaissances parce qu'on n'a plus le temps même de lire. C'est pour ça qu'il faut avoir, qu'il y ait un réalisme et un soutien mutuel pour que cette vie continue dans le bon sens, inshallah. Oui.
Moi je voulais en fait, je me posais la question par rapport justement au cas évoqué que vous aviez fait, donc par rapport donc à certaines sœurs qui quittent le domicile conjugal donc durant leur période Idda. Est-ce qu'on peut considérer alors à ce moment-là que leur période Idda est valable ou pas?
Si, si, la période valable, elle est toujours valable. Ouais. Simplement, elle a commis un interdit, et elle est dans un état de ce qu'on appelle nos choses, et à ce moment-là, donc, parmi les choses par lesquelles elle peut être sanctionnée, c'est qu'il n'y a plus de nafaqa. Nafaqa n'est plus. Mais elle est toujours dans sa période Idda, ça c'est clair. Je ne peux pas dire, je suis parti, je n'ai plus à respecter la Idda. Si elle se marie entre-temps, elle est dans un état de zina. Hein. Et donc, tout ce qui va découler de ce lien est un lien. Et c'est donc, le lien, il est illégal, et ce qu'on dégoule, il sera considéré comme des enfants illégitimes, et ce qui s'ensuit. Hein. Donc, non, la Idda, elle est toujours d'actualité, et elle doit la respecter. Non.
Pour ajouter, en fait, à cette question-là, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, je pense, dit dans le Coran, en fait, que durant cette période, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut changer la situation.
Oui, mais ça c'est clair, c'est pour ça le but en vérité. Le but c'est que la femme reste dans son foyer et que le mari n'a pas le droit de la sortir pour permettre l'union de nouveau, la réconciliation. C'est ça le but. Lorsqu'il cohabite avec elle, ils mangent ensemble et ils vont être forcés de se parler. Surtout si c'est un lien qui dure depuis 5 ou 6 ou 10 ans, il y a qu'on le veut ou non, il y a des souvenirs. Et les souvenirs ne sont pas tous négatifs. Dans une vie de couple, il y a des moments de joie et de bonheur, comme il y a des moments de difficultés et d'épreuves, et bien ça permet à la femme de se remettre en question et l'homme de se remettre en question. Qu'en même temps, c'est mon mari, avec lui j'ai vécu des moments de bonheur, c'est ma femme avec laquelle j'ai vécu des moments de bonheur. Et donc ça permet, le but c'est ça, le but en vérité, qu'elle reste et que l'homme ne peut pas la sortir et qu'elle ne sorte pas, c'est de permettre la réconciliation. Et pour que la réconciliation ait lieu, l'islam interdit à ce qu'un élément étranger, un individu étranger, vient interférer, vient faire une interférence pour vraiment bousiller cette possibilité de réconciliation. D'où le fait, comme je vous ai dit, il est formellement interdit qu'un homme fasse illusion, par allusion ou par texte explicite, une demande à une femme qui est dans sa période de révocation. C'est un péché parmi les plus graves. Pourquoi ? Parce qu'il vient détruire une possibilité de réconciliation entre un homme et une femme qui ont vécu dans une intimité et qui était, cette intimité, elle a été engagée au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a fait que l'homme il est rentré dans l'intimité de la femme et la femme est entrée dans l'intimité de la plus secrète. Alors pourquoi est-ce qu'on va rapidement à la besogne pour la casser? Donc il faut laisser toutes les possibilités de réconciliation. Je vais essayer de les répondre à ces questions. Puis, est-il recommandé pour la femme divorcée pour son mari en période de viduité de prendre un témoin? Mais je vous ai dit, j'ai répondu à ça. J'ai dit, comme pour la révocation, il y a certains qui exigent et d'autres ne l'exigent pas. Il y a certains qui ne l'exigent pas. Hein. Le fait qu'elle a dit t'es divorcée, elle n'est pas. La majorité n'exige pas. Il a dit c'est fini. Dieu est témoin et elle sait qu'il lui a dit, donc pour la femme divorcée, pour son mari en période de vidité, de prendre un témoin. Un témoin quoi? Pour le divorce ou quoi? J'aimerais bien savoir, le frère ou la soeur qui m'écrit ça. Le témoin, c'est pourquoi? Pour le divorce? De toute façon, le témoignage de l'islam, c'est deux témoins, on fonctionne par deux toujours, pas un. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui disent que la révocation doit se faire devant témoins, ils disent deux témoins, les dahilites. Shahidai adlin. Parce que Dieu a dit Shahidai adlin minkum. Donc, mais le fait de dire divorcé, on n'a pas besoin de témoins. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir des rapports entre les époux pendant la période de vie? Mais bien sûr! Mais bien sûr, puisque j'ai dit, ils sont toujours époux et épouses. Est-ce que le rapport est un acte de retour? Oui. Ben oui, si elle a permis, si lui a permis ça, elle. C'est que c'est un acte de retour. Je vous ai dit, ils disent soit qawlon, soit fi'lon. Mais pour qu'il y ait eu des rapports, c'est qu'elle a accepté. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'elle a fait une démarche, lui, avant. De réconciliation, de paroles gentilles, peut-être de demandes de pardon. Si c'est lui qui était en tort, ou elle a exprimé ses regrets, si elle l'a poussé à agir ainsi. Donc, oui. Hein. Alaykoum salam, un homme qui est en procédure de divorce, peut-il entre-temps chercher à se marier, demander la main de quelqu'un? Il est en procédure de divorce, c'est-à-dire il a prononcé le divorce. S'il a prononcé le divorce, oui. Parce qu'on part du principe, entre guillemets, hein, on part du principe, c'est que l'homme, il peut être polygame en islam. Donc le fait qu'il demande la main d'une autre femme n'est pas interdit. Maintenant, administrativement, ici, dans beaucoup de pays musulmans, soit ils ne permettent plus la polygamie, ou soit ils permettent, mais avec des conditions, parce qu'il y a eu abus. Et pour cette dernière position, beaucoup de juristes musulmans disent qu'il est permis à l'autorité musulmane d'établir des règles rigoureuses lorsqu'il y a abus dans l'utilisation de ce permis qu'est la polygamie. Ils le permettent, les savants musulmans. Ils le permettent, pourquoi? Parce qu'il y a un abus. Donc ils disent, on met des conditions pour qu'on ne commence pas à utiliser les femmes comme un jeu. Donc l'homme n'a pas de problème, mais la femme ne peut pas demander. Elle ne peut pas accepter, pourquoi? Mais parce qu'il y a la question de istibra' al-rahim. C'est qu'on doit être sûr qu'elle n'est pas enceinte. C'est pour ça, la cause de la idda, c'est pour permettre la réconciliation, mais la cause de la idda aussi, c'est d'être sûr que la femme n'est pas enceinte de son mari. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas permettre en islam qu'elle se marie avec quelqu'un où elle risque d'être en grossesse, et on ne le sait pas, et il y a un mélange de ce qu'on appelle des filiations. Donc tous les savants sont unanimes que la raison pour laquelle Dieu a institué l'Idda ou l'Istibra' al-Rahim, être sûr que la matrice ne contient pas le fruit de la relation avec l'époux. Et comme ça, on ne peut pas s'engager dans un mariage alors qu'on n'est pas sûr. D'où le fait qu'on a exigé les trois Idda, qui est ce qu'on appelle la période vraiment maximale pour être sûr que le retard n'est pas dû à un dérèglement hormonal. Parce que la femme peut avoir un cycle, un retard, un mois, deux mois, mais après trois mois, non, ce n'est pas un dérèglement. Ça, c'est qu'il y a sûr et certain qu'il y a grossesse ou il y a un problème grave. Mais en général, lorsqu'on arrive à ce retard-là, c'est qu'il y a une grossesse. Mettons à corps les situations particulières de maladie grave ou autre. Surtout si c'est une femme qui avait toujours ce qu'on appelle mu'tada, l'accoutumée, qui avait toujours ses cycles d'une manière bien précise quant à leur début et fin et la date. Et puis subitement, elle voit un retard. On dit oui, ça on peut. Peut-être à cause de cette situation de divorce, le dérèglement a fait qu'il y a un retard. Un mois, deux mois, mais trois mois, non. Trois mois, alors là, c'est peut-être qu'elle est enceinte réellement. Et pour lever tout doute aussi, pour la femme ménopausée, on a dit trois mois. On ne calcule plus en termes de cycle, mais on calcule de termes de mois pour être sûr. Donc il peut demander, mais la femme qui est en perte de virginité, elle ne peut pas du tout accepter une demande de mariage. Wallahu a'lam. Dernière question d'un des frères, oui.
Si j'ai bien compris, la deuxième prononciation de divorce n'est comptabilisée qu'après trois cycles.
Non, elle est comptabilisée tout de suite.
La deuxième.
Même la deuxième.
Non, on a dit qu'il ne peut pas le dire deux fois de suite.
Non, il peut pas. Non, s'il le dit, séance tenante, j'ai dit, sur la même place. Okay. S'il dit t'es divorcé, c'est compté un.
Okay. Et si, après,
s'il divorce, sommes d'accord? Et pendant la règle, d'ailleurs, révocation. Même pas après 15 jours, ils sont réconciliés. Et après une semaine, il le dit, divorcé. Ben, c'est comptabilisé. Deuxième divorce.
Après une révocation,
oui. Oui. Parce qu'on recalcule chaque fois qu'il y a reprise de vie commune.
Et sinon, il n'y a pas de durée pour la révocation. Ben,
s'ils sont deux irresponsables, et pendant un mois, ils l'ont prononcé trois fois, qu'est-ce que tu veux que l'islam leur fasse? Ils se réconcilient, puis deux jours après, ils divorcent de nouveau. Le divorce a lieu. Une semaine après, ils divorcent de nouveau. Ben, c'est fini, ils sont séparés définitivement. Là, elle ne reste plus chez son mari, elle s'en va. Mais elle doit respecter la hadith des trois cycles. C'est un divorce irrévocable définitif. Il n'y a plus de révocation, mais ça s'appelle talaq ba'in bi baynuna kubra. Mais elle n'est plus tenue de rester chez lui, parce qu'elle n'a plus, elle n'a plus le droit même à la prise en charge, ni rien du tout. Et donc, elle va passer sa hadith chez ses parents. À la fin de sa hadith, elle peut se remarier.
C'est une question sous-jacente pour vous-même. Qu'est-ce qui se passe lorsque la révocation n'est pas acceptée par la femme?
Islamiquement, on n'a pas à la refuser. Si elle refuse, alors elle fait une demande de divorce par khola. C'est qu'elle ne veut plus vivre avec lui. Alors c'est elle qui est demandeuse de divorce à ce moment-là. Ça s'appelle. Et alors elle va faire la démarche par le khola que Dieu institue dans le Coran. Et on reviendra à ça. Mais une femme musulmane ne peut pas refuser. Si elle refuse, c'est alors elle qui veut divorcer, pas lui. Alors ça devient elle qui demande le divorce, et là il y a d'autres règles que nous allons voir lorsqu'on parlera du khala. C'est clair? Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fa tabi'una ahsana. Allahumma fa'na wa anfa' bina wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونعوذ بك من عذابك والنار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية ودوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم نسألك في هذا المكان المبارك يا رب العالمين أن تنصر أخواننا في ليبيا نصرا مؤزرا اللهم احقن دماءهم وعنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم سدد رأيهم وسدد رميهم وألف بين جماعتهم وعليك بهذا الظالم اللهم خذ على يديه أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قدير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعيننا إخواننا في كل مكان وأن تمكن لدينك الذي ارتضيت لعبادك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.